Au gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous tous à l'écoute, ici Armand Dubois, heureux de vous savoir là, particulièrement aujourd'hui où nous recevons un grand acteur, un homme qui impose le respect par l'envergure de sa carrière, mais surtout par la qualité exceptionnelle de son travail. Une carrière de comédien qui s'échelonne sur plus de 60 ans. Du capitaine Aubert de Cap aux Sorciers au caporal Gagné de la Gendarmerie Royale jusqu'au colonel Martin de la Côte de Sable, il n'a pourtant rien de militaire, sauf peut-être ce sens de la discipline, essentiel à l'acteur en recherche constante de vérité dans l'expression des rôles qu'il doit incarner. Rappelons-nous ce Xavier Galarneau de l'héritage de Victor Lévy-Beaulieu et on comprendra ce que cela signifie. Mais c'est à la scène qu'il doit ses plus belles heures. On le verra au théâtre dès 1945 avec la troupe de Pierre Dagenais dans « Le songe d'une nuit d'été » de Shakespeare. Sa présence théâtrale comporte plus d'une centaine de rôles, dont celui de Léopold dans « À toi pour toujours ta Marie-Lou » de Michel Tremblay. De nombreuses distinctions ont souligné la qualité exceptionnelle de sa contribution aux arts et à la culture. Il est notamment officier de l'Ordre du Canada et officier de l'Ordre national du Québec. Un immense privilège que d'accueillir aujourd'hui M. Gilles Pelletier. Bonjour à vous.
Bonjour.
Comment allez-vous, M. Pelletier?
Ça va très, très bien.
Une carrière, je le disais, exceptionnelle.
Oui, mais disons une famille exceptionnelle, un pays exceptionnel, un fleuve et un golfe exceptionnel, c'est tout ça qui nous fait, hein?
Parce que vous avez beaucoup navigué dans le monde des arts, navigué sur la mer réellement aussi.
Oui, puis je me suis aperçu, ma première vocation, c'était d'être marin, mais je me suis aperçu très tard que la deuxième vocation de comédien ressemblait un petit peu à la première. Parce que je voyais mes camarades faire, ils naviguent, vous savez, dans des rôles. Il n'y a jamais rien de sûr. On joue avec des fantômes, on joue avec des ombres. On ne joue pas dans la chair. On engage sa chair, mais il y a une sorte de côté aléatoire qui ressemble beaucoup à suspendu entre ciel et eau.
Mais vous disiez qu'on engage sa chair. Quand on incarne un rôle, savoir disparaître soi-même pour faire place au personnage, ça nécessite beaucoup de discipline, beaucoup de travail.
Oui et non. Je me suis rendu compte qu'en travaillant très fort pour faire les choses, le résultat est souvent à des limites. En travaillant à se mettre dans un état de disponibilité, de perméabilité, faire l'éponge, laisser entrer les impressions, répéter dans la détente, imaginer tout le temps, en voyageant du théâtre, la salle de répétition à la maison, en marchant, imaginer un personnage qui est une sorte de fantôme et qui tout à coup s'empare de nous en répétition. Et c'est pour ça que mes débuts au théâtre ont été tellement beaux, avec un metteur en scène prodigieux qui était Pierre Dagenais, ça s'est continué avec Jacques Létourneau, ça s'est continué avec Georges Legros. C'était des gens qui me connaissaient et qui me laissaient, ils laissaient le temps à ce fantôme de naître, à cette ombre de naître, et puis je faisais rien en répétition, c'était banal et tout ça. Et tout à coup, ça sortait, et c'était pas moi qui étais là. Là, c'est un personnage, c'est pas moi qui entrais dans la peau d'un personnage, c'est un personnage qui s'emparait de moi et qui me guidait en quelque sorte. Alors là,
mais toujours faut-il avoir cette sensibilité pour s'imprégner du personnage.
Cette disponibilité, ce côté éponge du comédien. Un jour, Paul Dupuis m'avait dit une chose qui était, je trouvais très juste, on parlait de la mémoire du comédien, tout ça, mémoire affective justement. Il dit oui, il dit on s'en va dans un train ou un autobus, tout à coup entre quelqu'un de bizarre, et puis, boum, ça rentre dans notre mémoire. Et puis tout à coup, on travaille un rôle, et puis on ne sait pas pourquoi ce personnage-là ressort dans notre rôle, la façon de s'habiller ou de... Donc, il y a quelque chose d'involontaire quelque part qui fait que une sorte de, je dirais, le mot est grand, mais évidemment, de miracle qui se produit. C'est parce que ça libère tellement. Vous savez, les personnages qu'on a interprétés généralement, et je dirais spécialement, moi, dans ma carrière, où j'ai des personnages très difficiles avec un langage qui n'était pas le langage quotidien. Alors, ces personnages-là étaient presque toujours beaucoup plus intéressants que ma personne. D'abord, parce qu'ils étaient plongés dans des situations dans lesquelles moi, je ne serais jamais, je n'avais jamais été plongé, oui. Je ne serais jamais plongé, beaucoup plus intéressant. Et que ce personnage, quand il s'empare de nous, nous permet des audaces et des choses qui sont toujours justes, mais tout à coup, on a l'impression, le public a l'impression qu'on improvise. Et un jour, une amie est assise dans une salle de théâtre, elle dit « Comment ça se fait, Pelletier, c'est pas comme les autres. On dirait qu'il improvise tout ça. » Puis il dit un texte de Racine.
Serge Reggiani a bien défini ce qu'était l'acteur dans cette chanson qu'on vous propose.
Merci.
Acteur, tiens, regardez comme je suis beau. On peut me traiter de cabot. Les ringards, moi, je m'en trompe pas. Acteur, c'est le batteur impudique qui s'allume au feu du public. Un fifre qui devient trombone. Menteur, mais pour vous donner du plaisir, à vous de savoir le saisir, de l'applaudir si vous enchante. Il meurt sous son armure de carton, quand il n'a pas trouvé le ton, le soir où le talent s'absente. Acteur, c'est chrysalide ou papillon, c'est la manche ou bien des millions, mais surtout pour rire aux étoiles. Acteur, c'est pour partager avec vous le privilège d'être fou, d'être des enfants de la balle. Menteur, c'est vrai, mais juste ce qu'il faut, on souffle le froid ou le chaud, rire et pleurs et puis farouche. Prêteur, en bourfant tous les pisse froids, du bout de notre épée de bois, à la fin de l'envoi, je touche.
Avec nous aujourd'hui, Gilles Pelletier, Reggiani qui parle de l'acteur dans tout le sens noble du terme. Vous avez mentionné ces nombreux personnages et personnalités avec qui vous avez travaillé, que ce soit Georges Groux, que ce soit Pierre Dagenais, des gens qui ont marqué véritablement vos débuts au théâtre.
Dans ma boîte de souvenirs, dans ma mémoire affective et professionnelle, il y a deux catégories de personnes qui ont été importantes pour moi. D'abord, les auteurs, et ensuite les réalisateurs metteurs en scène. Si je commence à la radio, oui. Les Ernest Palacio Morin, M. Paul Gury qui m'a écrit mon premier grand rôle dans un radio-roman, Henri Desglin, pour qui j'ai travaillé dans Vie de famille, Rudel Tessier, pour ne nommer que ceux-là. Et les metteurs en scène, vous parlez de Pierre Dagenais, Jacques Létourneau, Georges Groux et d'autres aussi. Puis à la télévision, même chose, Marcel Dubé, un auteur prodigieux, dans Le simple soldat, et aussi Victor Lévy-Beaulieu. Mais je pense aussi aux réalisateurs. À la radio, vous savez, il y a eu un grand bonhomme ici qui est à l'égal de Orson Welles comme réalisateur de grandes émissions dramatiques radiophoniques. C'est Guy Moffette, notre poète du cabaret du soir qui penche. C'était un prodigieux réalisateur et un prodigieux directeur d'acteurs qui nous faisait nous dépasser.
Et on oublie que même Guy Moffett a été celui qui avait découvert la pièce de Glazounov qui a servi de thème aux belles histoires des pays d'en haut.
C'est lui qui a réalisé, c'est lui qui a mis l'émission Un homme et son péché
à la radio.
Belles histoires, qui a mis à la radio, qui a mis ça sur le, avec la distribution et tout ça. Oui. C'est lui qui a parti l'émission qui a été ce succès-là. Et sans Guy, ça n'aurait pas été la même chose. Mais des réalisateurs de radio, il y en a beaucoup, beaucoup, qui étaient déjà éminemment intéressants et qui allaient chercher en nous, justement, des choses qui nous étaient tout à fait inconnues de nous-mêmes. J'en ai connu beaucoup. Et au théâtre, c'est évident qu'on répète 6 semaines, 2 mois, mais dans les grands téléthéâtres, mon Dieu, j'ai vécu une époque extraordinaire. Jean-Paul Vugère, réalisateur.
L'âge d'or de la télévision.
Paul Blouin, réalisateur.
Oui.
Et Louis-Georges Carrier, puis Jean Dumas, et beaucoup d'autres. Mais c'est fantastique où est-ce qu'ils nous ont conduits, où est-ce qu'ils ont pu me mener.
Donc, bien entouré, au moment où vous jouiez des personnages de composition, quand on parle, par exemple, du capitaine Aubert, c'était un vieux personnage.
Oui, je m'excuse, et quand vous dites entouré, c'est plutôt une notion chez moi, que je tiens, je pense, de mes mœurs de marin, c'est beaucoup plus un respect et le plaisir de servir. Quand vous parlez des auteurs à la radio que j'interprétais, je les servais. J'ai servi Marcel Dubé, j'ai servi Victor Lévy-Beaulieu, être au service de. Et pour moi, la noblesse de notre métier, elle est là surtout. Et les metteurs en scène, c'est la même chose.
Donc une
quand
dose
Jacques
d'humilité.
Quand Jacques disait oui. « Réveille-toi, Pelletier », en répétition, « Réveille-toi, Pelletier », ou bien « M'en va me coucher chez nous, je regarde la télévision, ça va être plus distrayant que de te regarder. » Non, 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 hey, non, non, va-t'en pas, là. Un peu, on va recommencer. Mais c'est une provocation, tout ça, c'est des gens que...
Alors, vous êtes demeuré, dirait Gilles Vigneault, là où l'amour loge, avec des gens que vous avez beaucoup aimés et qui vous ont beaucoup aimé. Cette chanson pour vous.
Merci.
Je demeure où l'amour loge, j'y retourne à chaque pas. Le temps n'est pas dans l'horloge, mais dans votre cœur qui bat. C'est bien un cœur qui m'appelle, je ne sais pas depuis quand. Sa mélodie est si belle et son chant si éloquent. Ce cœur est-ce bien le vôtre qui s'accorde avec le mien? Si c'était celui d'une autre, je ne répondrais de rien. Mais ce tam-tam qui fredonne, un refrain que je connais, c'est celui de votre automne, à l'entendre, je renais.
Avec nous aujourd'hui, Gilles Pelletier, ce grand acteur, presque une colonne du temple parmi les, dans le domaine des arts.
Vous savez, le mot de Gilles Vigneault à une dame qui lui disait « à vous ». Monsieur Vigneault, vous êtes un monument. Oh, il dit, attention, madame, il bouge encore.
Mais cette idée de faire du théâtre, elle vous est venue très jeune?
C'est-à-dire qu'à la maison, sans le savoir, mes références n'étaient pas théâtrales, elles étaient cinéma. Mais j'imitais beaucoup les acteurs et les personnages que je voyais au cinéma. Je donnais la réplique à ma sœur Denise qui disait « Mon père, ma mère, Denise, disait, t'es un acteur. » Et pour moi, c'était pas intéressant, c'était marin que vous l'êtes. Quand j'ai commencé à faire ce métier-là, là, je me suis aperçu que le acteur de théâtre, c'est une transposition de toutes les choses essentielles à la vie, en ce sens que la démarche sur scène n'est pas la démarche qu'on a dans la vie. La diction, la voix est une voix de théâtre, est une diction de théâtre. Faut pas que ça paraisse. Faut que le public y croie. Mais tout est transposé. Tout est fait par l'acteur. Tu sais, je vous donne un exemple. La scène la plus touchante dans la vie. que vous voyez, le plus grand malheur des gens qui pleurent, qui hurlent, prenez ces gens-là immédiatement, mettez-les sur une scène de théâtre, il n'y a personne qui va les écouter.
Mm-hmm.
Il faut
mettre un...
l'art du théâtre,
voilà.
Le mettre à tel point que, à un certain moment, quand on possède bien un rôle, on peut très bien dire des choses en dehors de notre rôle.
Attention,
le déplacement est un peu long, et que ça nuit pas du tout au rôle.
Il faut dire cependant que vous êtes issu d'une famille dont le père était lettré. Il avait fait ses études au collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière, avait même obtenu un baccalauréat en 1916. C'était aussi un polémiste, dit-on. Il a eu un magazine qui s'appelait Les Idées.
C'était une revue littéraire.
Parce qu'il était critique littéraire.
Oui. Et Olivard Asselin a engagé mon père comme critique littéraire dans ses journaux Le Canada, L'Ordre, La Renaissance.
J'ai retrouvé, M. Pelletier, un texte de 1931. Écrit par votre père, où le ton est souvent polémique, et la critique radicale, ce sont les synthèses de ses réflexions au sujet de la littérature canadienne, qui se retrouvent dans la librairie d'Action canadienne-française, dans la collection Les Jugements, de 1931. Et votre père explique d'entrée de jeu que la littérature nationale est un but à atteindre bien plus qu'un fait accompli,
oui.
Et que le nationalisme littéraire, lui, est un moyen de faire au Canada une littérature distincte de celle des autres pays.
Oui.
Ça a sûrement forgé beaucoup l'homme que vous êtes devenu aussi.
C'est-à-dire, mon père, ce qu'il y a de curieux, c'est qu'évidemment, il disait, il y a cette phrase aussi qui est dans une correspondance publiée d'ailleurs,
oui.
Avec Louis Dantin, le critique de l'époque,
oui.
Aussi, il disait que nos écrivains doivent connaître la langue française, toute la grammaire, la stylistique, tout ce du français, plus davantage si possible qu'un Français de France. Et une fois qu'ils posséderont ça, qui écoutent parler leur cœur, puis si les Français de France ne nous comprennent pas, ils nous traduiront. On est dans le voile, là.
Ouais.
Les pièces de Tremblay ont été jouées à Paris et sont encore jouées dans le monde entier.
Elles sont universelles.
Il disait ça dans les années 30.
Ouais.
Et là, il y avait Robert Choquette qui n'était pas du tout d'accord avec lui. Il y a eu des polémiques là-dessus, mais il croyait dur comme fer, lui, dans ça. Et ce qu'il y a de curieux, c'est qu'Alfred Desrochers était un de ses grands amis,
oui.
Robert Choquette, Claude-Henri Grignon, et ils critiquaient leurs œuvres comme si ce n'étaient pas des amis, comme si c'était des purs étrangers. Et ces gens-là pouvaient être blessés de temps en temps, mais ils revenaient toujours chez nous le voir, puis ils disaient, lui, il est honnête.
Mais de baigner dans cet univers lorsqu'on est jeune, c'est quand même un cadeau extraordinaire.
On a peut-être, je disais, Denise, on a peut-être appris à jouer aussi, parce qu'il y avait des personnages drôlement pittoresques. Il y avait un bonhomme qui s'appelait Berthelot Brunet, homme de très grand talent, mais un hobo, un itinérant, un gars qui... tout sale, tout ça qui venait chez nous. Petit gars, j'avais honte quand il montait l'escalier chez nous. Il disait, hey, c'était un ami de ton père. Mais Claude-Henri Grignon. Et de voir ces gens-là se promener dans le salon chez nous en lisant leurs œuvres, en faisant des gestes, en riant, tout ça, il y avait déjà une leçon de comédie.
Ouais.
C'était des personnages.
C'est curieux parce que vous évoquiez le nom d'Alfred Desrochers. Richard Giguère de l'Université de Sherbrooke a même écrit une thèse qui porte sur Alfred Desrochers et Albert Pelletier, deux critiques et essayistes modernes, disait-il, bien avant leur temps. Parce qu'il faut se rappeler qu'on est au début du siècle.
Oui. Mon père disait, parce qu'il s'est tu à partir de la guerre, à peu près, au cours des années 40, il dit, j'ai dit ce que j'avais à dire, mais je pense que ce qu'on a fait dans les années 30, tous ces gens-là, là, Grignon, lui, Olivard Asselin, on a, en quelque sorte, mis les bases de ce qu'on a appelé après la Révolution tranquille.
Un grand poète du 20e siècle, Émile Nelligan, dont Albert Miller a enregistré, il y a quelques années, certains de ses poèmes. Voici celui qui a pour titre « Rêve d'artiste » élu par votre collègue et ami Albert Miller.
Parfois, j'ai le désir d'une sœur bonne et tendre, d'une sœur angélique au sourire discret, sœur qui m'enseignera doucement le secret de prier comme il faut, d'espérer et d'attendre. J'ai ce désir très pur d'une sœur éternelle, d'une sœur d'amitié dans le règne de l'art, qui me saura veillant à ma lampe très tard, et qui me couvrira des cieux de sa prunelle, qui me prendra les mains quelquefois dans les siennes et me chuchotera d'immaculés conseils avec le charme ailé des voix musiciennes, et pour qui je ferai, si j'aborde à la gloire, fleurir tout un jardin de lys et de soleil dans l'azur d'un poème offert à sa mémoire.
Émile Nelligan, pour vous, ça évoque
Au fond, j'ai fait un spectacle Émile Nelligan au, comment ça s'appelait, la boîte, le restaurant du maire Drapeau.
Le vaisseau d'or.
Le vaisseau d'or, bon.
Oui, voilà.
Alors j'ai fait, oh, 2 mois, lire des textes de Nelligan. J'aime ça, mais pour moi, je ne suis peut-être pas assez romantique. Je suis plus classique. Pour moi,
Albert Miller serait plus...
Oh, pur. Mon Dieu, Albert. Albert, même sa voix. Moi, je suis une trompette. C'est un violoncelle, lui. Et la voix... Non, Albert, beaucoup plus romantique. Et moi, je serais plus classique.
Mais vous savez que dans
j'ai
un orchestre...
J'ai une faiblesse dans les poèmes. Oui. Très grande affinité avec les poètes de la Pléiade. Chose curieuse, René Lévesque, que j'ai connu bien avant la politique, hein,
oui.
Qui était un ami. Bon. Et Lévesque aussi. Rudebeuf, justement.
Oui.
Villon, Ronsard.
Charles d'Orléans.
Charles d'Orléans. Tout ça, ces poètes-là, je suis tout près d'eux. D'ailleurs, c'est une chose, c'est un phénomène, ça. Je ne sais pas si beaucoup de gens sont comme ça. Bon, ce n'est pas un phénomène, justement. C'est peut-être que c'est commun. Les gens du 16e, du 17e, du 18e, du 19e siècle, et mes ancêtres à moi qui sont morts, mes grands-parents et tout ça, ça appartient tout à ma boîte à souvenirs. Et les morts anciens, les morts plus récents, et les vivants, ça se mêle tout ce monde-là. Comme dit Maeterlinck, c'est peut-être parce que les vivants sont des morts qu'on voit pas encore. Puis les morts sont des vivants qu'on voit plus.
On se retrouve tous dans le grand tout.
Oui, surtout dans ma mémoire, dans mes souvenirs affectifs. Oui.
Dans votre mémoire, il y a une église, Saint-Louis de France,
ah ben oui.
Où vous alliez de façon presque, pas excessive, mais de façon très régulière.
Ben, presque quotidienne, oui.
Pour y entendre...
Pas quotidienne, je veux dire...
Hebdomadaire,
oui.
Pour y entendre la majestueuse musique de l'orgue.
Oui, on avait une chance à Saint-Louis-de-France, c'est que l'organiste était Antonio Letourneau, un grand musicien qui a été notre professeur de piano à Denise et à moi, et que le maître de chapelle était Charles Goulet, directeur des variétés lyriques et des disciples de Massenet, ce qui fait qu'on avait les plus belles voix de Montréal. Donc, la musique, pour quelqu'un qui est sensible à la musique religieuse, c'était extraordinaire, c'était un concert chaque dimanche, et M. Letourneau, qui m'aimait bien, me disait « Viens à la tribune de l'orgue ». Et j'étais assis à côté de lui, sur le banc de l'orgue, et je regardais manipuler tous ses vols, hein, puis j'écoutais la musique.
Et c'était déjà le sens de l'artiste qui pouvait peut-être
oui,
jaillir.
Oui, mais ça, c'était toute ma vie consciente, même enfant, beaucoup plus à donner aux rêves tendance à rêver les moments agréables. Pas seulement les goûter dans le rêve.
Mais ça imprègne le cœur pour toute une vie.
Ah ben, c'est sûr, ça enrichit la boîte à souvenirs.
Il y avait dans cette paroisse, d'ailleurs, Madame Allary, Léopold Simoneau,
oui,
qui
oui.
Se retrouvait souvent à l'église Saint-Louis-de-France.
Puis les gens du Quatuor Alouette, Trottier, O'Brien, des gens qui venaient chanter à Saint-Louis-de-France.
Alors, je vais vous faire revivre un beau moment. Évidemment, ce n'est pas à l'église Saint-Louis-de-France, mais comme vous aimez la musique provenant de ce grand instrument qu'est l'orgue, Il s'agit d'une interprète d'ici qui a pour nom Catherine Todorovski, qui va nous interpréter le quatrième mouvement de la pastorale en fa majeur de Jean-Sébastien Bach. Quand il est question d'orgue, je pense que Bach en est sans nul doute le grand maître.
Oui, mais il ne faut pas oublier Buxtehude et enfin tous les autres grands maîtres, Telemann. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, puis des maîtres français aussi, Jean Gilles.
Messiaen aussi, oui, plus de façon plus moderne. Mais Bach, on peut quand même s'en contenter.
Ah ben là, c'est le...